Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans Bouffon.
Ça va bien, Bouffon ?
On bouffe ?
Tu bouffes ? Tu bouffes ?
En 2010, je mettais les pieds pour la première fois de ma vie à Austin, au Texas, sans savoir que j'allais découvrir une ville géniale avec une culture culinaire bien loin des clichés que j'avais en tête. Une aventure qui avait notamment une sacrée saveur de sauce barbecue. C'est la spécialité du Texas, de la viande cuite au feu longtemps, très longtemps, marinée, épicée, et servie dans d'immenses restaurants où on mange avec les doigts sur de grandes tables en bois. J'ai d'ailleurs noué une relation très proche avec un train de côte, avec des ribs, puis je me suis brûlé en mangeant du poulet fondant ou des brisquettes. Et en rentrant à Paris, je rongeais mon frein avec le mal du pays, en l'absence de barbecue correct à la capitale. J'ai dû attendre des années avant qu'enfin un barbecue digne de ce nom ouvre à Paris, et c'est grâce à Thomas Abramovich qui a ouvert The Beast, un barbecue comme là-bas, puisqu'il est tout simplement allé se former avec les meilleurs au Texas pendant des mois, et il est venu nous raconter son histoire et les subtilités du barbecue made in America en deuxième partie d'épisode.
Pour moi, c'est la forme la plus pure du barbecue, parce que tu cherches pas à couvrir quoi que ce soit avec du sucre, avec du jus, il y en a qui arrosent de jus de pomme, de vinaigre, t'as plein de manières, et c'est très bon. Mais je trouvais que vraiment ça prenait tout son sens le plus noble quand tu servais le bœuf avec sel, poivre et rien d'autre, et que tu sens tout sauf du sel et du poivre. T'as l'impression qu'il y a 15 épices dans ce que tu manges, et en fait c'est juste la magie de ce barbecue qui te transforme la matière première.
Mais on va pas trop faire les Américains pour démarrer, et on va commencer par parler du barbecue bien de chez nous, celui qui fait s'écharper les garçons et cramer les merguez. Et c'est Jean-François Dupont avec qui on voulait parler. Alors pourquoi, nous diriez-vous ? Eh bien parce qu'il est l'organisateur du championnat de France de barbecue, tout simplement.
C'est toujours une réaction en deux temps. Il y a d'abord un rire. Ah bon, il y a un championnat de France de barbecue. Et c'est vrai que souvent, derrière le rire, on sent un peu de rêve, parce qu'on a tous au fond de nous un petit côté grilleur, braiseur. Et donc, on a envie d'y participer, quoi.
Est-ce que le rire, il vient pas d'une fausse idée du barbecue, qui est qu'en fait, c'est juste faire griller des merguez et point barre, qui est un peu la fausse idée qu'on se fait souvent, j'ai l'impression, en France?
C'est exactement ça, c'est-à-dire que pour la majorité des gens, le barbecue, c'est une cuisine hyper simple, voire ratée, c'est-à-dire on dit oh, ben, c'est pas grave, c'est du barbecue, alors que finalement c'est un super moyen de cuisson et même de cuisine, et si on s'amuse un peu, eh bien on peut faire plein de choses, il y a pas de limite à la création sur barbecue, et c'est ce qu'on demande à nos champions. C'est-à-dire, on leur demande en permanence d'essayer de repousser au maximum le barbecue classique pour nous faire des choses qui nous étonnent et qui restent quand même dans un esprit barbecue, parce que il faut que ce soit convivial, il faut que ce soit sympa, il faut que ce soit festif, il faut que ce soit cool, parce que le barbecue, c'est non seulement la cuisine, mais c'est surtout le moment où on le déguste et où on le prépare. Quoi.
Oui, c'est quoi une définition du barbecue ?
Bah moi j'aime bien dire que c'est de la cuisine. Il y a deux dimensions. Mmh. Il y a le côté cuisine en extérieur. Et comme c'est en extérieur, on est plus cool, on est plus libre et on est plus authentique, je pense. Et puis après, il y a le moment qui est un moment de partage, de convivialité. La cuisine, on la fait pour les autres, en général. Hein, pour faire plaisir, pour partager. Mais je pense que le barbecue, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire, on le fait pour réunir ceux qu'on aime, et sa famille, ses amis, ses copains. Et donc, c'est le barbecue, c'est à la fois la technique de cuisine, et c'est aussi ce moment hyper convivial où tout le monde mange, où il y a moins de codes, etc. Il y a des choses qui sont assez étonnantes. C'est-à-dire, il y a des études qui sortent régulièrement sur le barbecue. Et j'ai en tête un sondage qui disait que on discutait plus dans un repas au barbecue que dans un repas classique. Il était plus facile de faire des rencontres autour d'un barbecue qu'autour d'une table classique. Donc ça laisse ouvert toutes les possibilités, quoi.
Mais ça, c'est le côté moins codifié. Enfin, il n'y a pas la cuisine et la table. Il y a le barbecue dehors. Enfin, c'est plus vaste. C'est moins guindé, on va dire.
Ouais. Et puis moi, je pense qu'il y a un élément, c'est que en fait, des cuisines dans des salons maintenant, c'est commun. Mais là, on a vraiment l'espace de cuisson qui est au même endroit que l'espace de dégustation. Donc, on voit le cuisinier. Si on est un peu bien élevé, on va lui parler. avant que ce soit fini. Et donc, il y a cette dimension autour du feu. Et puis, je pense que le feu, ça a aussi, ça doit faire appel à quelques instincts. On se réunit, quoi. Voilà. Même s'il fait très chaud, quand on voit un feu, quand on voit un foyer, on a envie d'aller, de s'en approcher et de le regarder. Donc, si on ajoute à ça une bonne odeur et des discussions sympas, ben voilà, quoi.
Est-ce que vous êtes spécialiste du barbecue ?
Ah, il y a des gens qui sont plus spécialistes que moi, mais disons que ouais, depuis une dizaine d'années, je dois en faire 4 ou 5 par semaine, donc ça commence à faire pas mal de barbecue.
4 ou 5 par semaine ?
Ouais.
Et comment on fait en hiver pour faire des barbecues ?
Ben, c'est justement en hiver que c'est le plus sympa, pour une raison qui est simple, c'est que je ne cuisine plus rien chez moi qui dégage de la fumée. Je fais tout dehors et c'est magique, quoi, parce que il y a plus d'odeur de cuisine, en fait. Alors, il y a des bonnes odeurs de cuisine, hein, mais les odeurs de grillé, de friture, c'est moins sympa, quoi. Et donc, bon, alors, j'ai de la chance, c'est que j'habite dans le sud de la France, donc il fait quand même plutôt beau. Même l'hiver, il y a quand même pas des températures négatives tous les jours. Puis après, c'est une habitude à prendre et ça fonctionne, quoi. Mais en fait, le temps, c'est pas un élément qui bloque le barbecue, parce que bizarrement, les gens d'Europe du Nord, les Suédois, les Danois, les Allemands sont des passionnés de barbecue et on fond par tous les temps. Et je crois que pour nous, l'enjeu, c'est ça, quoi. C'est de déclasser un peu la saison en quelque sorte et de dire le barbecue, c'est bon toute l'année, quoi.
Donc on pourrait imaginer des championnats du monde d'hiver de barbecue comme avec les JO où il y a des épreuves d'été et des épreuves d'hiver.
Notre première épreuve, on l'a fait à l'Alpe d'Huez, les pieds dans la neige. Et ça cartonne.
La première de l'histoire du championnat de
France
de barbecue.
Non, la première cette année, ouais. Alors, enfin, on l'a déjà fait l'année dernière.
Votre premier souvenir de barbecue, c'est quoi ?
Alors, premier souvenir de barbecue, c'est vraiment très simple. C'est bon, moi, je suis un Provençal typique, puis en plus, je suis Camarguais, donc je suis Arlésien. Donc, on est dans une zone d'élevage. C'est autrefois, dans un temps béni, il était toléré qu'on fasse des barbecues sur les plages, ce qui est aujourd'hui totalement interdit. Donc, on a une plage extraordinaire à Arles qui s'appelle la plage de Bauduc, qui est un peu le bout du monde. Et moi, j'ai le souvenir très clair, enfant, d'avoir fait des barbecues sur cette plage avec mes parents et leurs copains pour faire griller des poissons, des côtelettes, des saucisses, même des tellines dans des poêles, dans des choses comme ça. Et ça, c'est un truc qui marque. Et puis après dans le mas de mes grands-parents, c'était aussi un peu une habitude, là un petit peu plus au nord, près d'Avignon, où c'était quand même un élément important. Donc je pense que le barbecue, on le rattache quand même souvent à un élément d'enfance et de belles réunions de famille, de belles réunions d'amis, quoi.
Oui, parce que le barbecue, c'est toujours lié à un moment plutôt heureux. On fait rarement du barbecue vite fait en rentrant du boulot.
Exactement.
Quand on
n'a
pas le temps.
Ouais, mais c'est exactement ça. C'est, on le bâcle pas, quoi.
Ouais.
On prend le temps de le faire parce que déjà il faut allumer le feu, il faut sortir, il faut trimballer ses ustensiles de cuisine, etc. Donc il faut le faire correctement. Et puis il y a toujours une attente particulière. Bon, moi, je suis gourmand de nature, donc j'ai une attente particulière dès que je me mets à table. Mais quand c'est le barbecue, c'est un peu plus qu'aux autres moments, quoi.
Alors du coup, le championnat de France de barbecue, ça commence quand, comment et pourquoi ?
L'idée, c'est que, comme beaucoup d'autres, j'avais l'impression d'être le roi du barbecue dans mon jardin. Je dis beaucoup d'autres parce que tout le monde est persuadé, oui, qu'il est le roi du barbecue dans son jardin. Et si on a des amis sympas, on en est encore plus persuadé parce qu'ils vous disent « Waouh, c'est super !» Et donc, j'ai voulu participer à un concours de barbecue. J'ai vu qu'il y en avait dans tous les pays, mais qu'il n'en existait pas en France. Donc, on s'est regroupé avec des copains. On a créé une association, la Fédération Française de Cuisine en Extérieur. Et on s'est dit « Bah, puisqu'il n'y a pas de concours, on va créer le nôtre. » Soyons ambitieux, on va faire un championnat de France. On est allé à la recherche de sponsors. On a trouvé Weber et Ducros et les deux nous ont dit oui en moins de 10 minutes. C'était quasiment le conte de fées, quoi. Et donc, on a lancé une première édition où on a eu une vingtaine de participants. Et l'année dernière, on a fait la cinquième édition. Et donc, on avait 110 équipes, ce qui fait à peu près plus de 400 personnes qui cuisinaient en même temps au barbecue sur la place des Saintes-Marie-de-la-Mer. Et à partir de là, on s'est dit, bah, maintenant qu'on a l'épreuve finale, il faut qu'on fasse les sélections régionales. Et donc, on a commencé l'année dernière avec l'Alpe d'Huez, parce qu'il fallait quand même quelque chose qui soit un peu exceptionnel pour faire venir les gens. Et cuisiner les pieds dans la neige, c'est exceptionnel. Et donc, ça a super bien fonctionné. Et cette année, on aura aussi une épreuve en Corse, à Sagone. On aura l'épreuve de l'Alpe d'Huez. On aura une épreuve en Occitanie, à Montpellier. Donc, c'est assez proche des Saintes-Maries-de-la-Mer, mais c'est quand même une autre région. Et puis là, on travaille, on est sur 2-3 projets en Normandie et dans le nord de la France pour couvrir l'ensemble du territoire. Donc on veut que ça devienne un championnat avec des manches régionales et une grande finale en Camargue.
Donc là, les manches régionales ont commencé ou c'est plutôt au printemps
Elles commencent au printemps. La première, c'est au mois d'avril et ce sera à Montpellier. Après, il y en aura mars, avril, mai et la grande finale en juin.
Et les inscriptions commencent quand ?
Les inscriptions, on va ouvrir le site au début de l'année. Là, on a déjà plein de gens qui se manifestent, qui sont préinscrits en quelque sorte. Mais après, on a un formulaire où les gens peuvent s'inscrire directement et on le met toujours en ligne début janvier.
C'était vraiment une question que je posais pour moi, pas pour les autres, parce que j'ai très envie d'y participer. Donc oui, alors au début, c'était, ça a un peu évolué parce que genre, là maintenant, il y a plusieurs épreuves différentes. Il y a légumes, desserts et différents types de viande, poissons.
Voilà. Alors dès le début, on avait plusieurs catégories. Mais à la demande des... Parce qu'on est une fédération cool, parce que le barbecue, c'est cool, donc on écoute nos membres.
Ouais. À la fédération du barbecue.
Donc, à la demande des participants, on a ouvert au fil du temps des nouvelles catégories. Ils voulaient, par exemple, une catégorie dessert qu'on a inaugurée l'année dernière et qui a cartonné. On a une catégorie poisson qui fonctionne très bien, parce que c'est vrai que quand on dit barbecue, on pense à la viande, mais le poisson, c'est génial. Et puis, on a une catégorie légumes qui fonctionne très, très, très bien. Il y a vraiment des choses hyper créatives. On a une épreuve burger. Et puis après, on retrouve les principales viandes, le porc, l'agneau, le bœuf et le poulet. Et puis, comme on est en Camargue, on a créé une épreuve spéciale qu'on ne trouve qu'au Sainte, qui est le taureau de Camargue. Parce que c'est une viande qui est exceptionnelle, qui a vraiment une typicité et c'est sympa de la faire cuisiner par des gens qui viennent de toute la France.
Et c'est quoi les règles du concours du championnat de France de barbecue? Est-ce qu'il faut que tout soit cuit dans le barbecue ou est-ce qu'il y a des... Enfin, comment ça se passe?
Alors ouais, on est hyper rigoureux. Donc déjà, il faut que les gens viennent avec... Tout doit être réalisé sur place.
Ok.
Donc on fait des inspections de glacières. Tous les aliments doivent être dans leur emballage d'origine. Après, on fournit la viande parce que on voulait pas faire une sélection par rapport au choix de la viande parce que c'est quand même très facile. Hein, y a des super morceaux de viande, il y en a. Donc, on fournit grâce à un de nos partenaires la viande à tous les candidats. Donc, ils ont tous le même morceau de viande, ils ont tous le même barbecue, ils ont tous la même quantité de combustible. Et après, c'est complètement libre, c'est-à-dire qu'ils ont 2h30 pour faire la meilleure grillade, le meilleur plat au barbecue. Quand on regarde les photos, on voit que vraiment ça évolue. Et ce qui est important, c'est la ponctualité. C'est-à-dire qu'on a un jury qui est vraiment hyper bien drivé. On a des marshals barbecue qui drivent les jurys. Et lorsqu'on dit à un candidat, ben, on va passer à 12h52, on essaye d'être là à 12h52. Donc, si c'est trop cuit, si c'est pas assez cuit, si c'est froid, eh ben, c'est pas éliminatoire. Mais forcément, il y aura quelques dixièmes de points sur la cuisson, sur la note globale du plat qui partiront. Et c'est ce qui fait les champions, quoi.
Qui est dans le jury du championnat de France?
Alors, dans le jury, on a toujours un chef. On travaille avec les maîtres cuisiniers de France, des chefs régionaux. On a toujours un représentant des métiers de la viande. Parce qu'on voulait avoir ou un boucher ou un charcutier, des gens qui ont vraiment cette connaissance du produit. On a toujours un membre de la Grill Academy. Donc la Grill Academy, c'est la seule école de formation au barbecue en France. Et puis on a un candide. C'est-à-dire, nous, on appelle ça un gourmet, un épicurien. Bon, en tous les cas, quelqu'un dont on sait qu'il aime manger, qu'il a la résistance physique pour goûter 30 ou 40 plats les uns derrière les autres, et dont on est sûr du jugement. Et donc, cet attelage-là de 4 juges, ça fonctionne bien. Et après, ce qu'on leur demande, ce qui est pas forcément ce qui les frustre un peu, c'est qu'on a un jury par viande. Donc, le jury bœuf ne va goûter que du bœuf, le jury porc. Bon, c'est tout simplement parce que on veut que tous les gens d'une catégorie catégories soient jugées par les mêmes personnes pour avoir les mêmes le même référentiel de notes. Et donc voilà, ils jugent. On essaye de pas leur faire goûter plus de 40 plats par jour.
Il fallait faire quoi cette année pour gagner le championnat de France de barbecue?
Wow, cette année, il y a eu vraiment des super équipes. J'ai en souvenir ceux qui ont fait le saumon, qui ont gagné le poisson, qui ont fait cuire leur poisson, leur saumon de trois façons, dont un fumage. Tout le monde s'est demandé comment ils étaient arrivés à fumer ce saumon-là en 2h30. C'était incroyable. Donc c'était super bien. En plus, il y avait tout un show parce que ils ont utilisé des capucins. C'est un accessoire qu'on utilise dans le sud-ouest, dans lequel on met du gras de porc qu'on fait fondre et qui permet de venir verser sur le plat. Donc ça, c'est vraiment une très belle réussite. Je sais que la recette de taureau était exceptionnelle. Ce qui est génial, c'est que l'équipe qui a gagné le taureau, c'est une équipe de Picardie.
Donc il n'y a pas souvent l'occasion de cuisiner du taureau.
Exactement. Et ils sont tellement passionnés qu'ils vont s'installer en Camargue et ouvrir un restaurant sur la thématique du barbecue. Ouais. Alors ils ont gagné deux années.
Donc ils ont déjà un bon carnet d'adresse sur place.
Ils ont déjà un bon carnet d'adresse.
Double champion de France de barbecue sur leur restaurant.
Voilà, c'est une équipe qui s'appelle Merpoule et qui a gagné le taureau, enfin qui est devenue une spécialiste du taureau et qui l'avait fait cuire. En fait, c'était un filet de taureau, il l'avait ouvert, il l'avait farci, il l'avait enroulé autour d'une broche et c'était parfait. Mon cuit, il y avait plusieurs niveaux de cuisson, enfin c'était vraiment génial.
Et qu'est-ce qu'on dit aux gens qui voient que le barbecue comme un truc où on fait des merguez et comment on peut leur dire, bon, il y a toute chose à faire quoi?
Ben alors, déjà, la première chose, c'est d'aller sur le site du championnat où il y a les plats et on voit ce qu'on peut faire et dès qu'on les voit, on a envie d'essayer. Après, il y a une littérature foisonnante. Alors même, elle est même trop foisonnante parce qu'il y a des recettes qu'on retrouve de partout. Il y a des blogs. En fait, il suffit de mettre un peu le doigt dedans et de commencer. Et moi, c'est vrai que ce qui a été le déclic, c'est l'utilisation du couvercle.
Oui.
Parce que ça change complètement la façon de faire du barbecue. Tant qu'on reste sur des barbecues avec la grille et les braises, on a une seule façon de cuire et le seul souci, c'est finalement que ça brûle pas. Donc d'enlever les aliments avant que ça soit brûlé. À partir du moment où on met le couvercle, on peut faire de la cuisson indirecte, c'est-à-dire qu'on met les braises d'un côté du barbecue et on met l'aliment à cuire de l'autre côté. Donc il n'est pas directement au-dessus des braises. Et là, on a des choses qui sont plus moelleuses, plus goûteuses, moins aléatoires, parce que le couvercle protège aussi des départs de vent, etc. On n'a plus les flammes qu'on peut avoir, puisque le gras ne tombe pas dans les braises, il tombe à côté. Et là, on commence vraiment à se dire, ben oui, on peut tout faire. Et avec cette dimension supplémentaire, qu'on a le goût fumé et qu'on a un petit caramélisé qu'on ne retrouve qu'au barbecue.
Est-ce que l'idée, c'est pas de faire preuve un peu d'humilité et se dire qu'en fait, on sait jamais vraiment faire du barbecue?
Ah ben carrément, mais bien sûr.
Parce que c'est ça, j'ai l'impression que les gens qui, comme tu disais tout à l'heure, en fait, on pense tous être très forts, mais en fait, beaucoup de gens font juste faire cuire des merguez par-dessus. Et en fait, se dire, bon, ben, en fait, non, je sais rien. Et en fait, il y a beaucoup plus de trucs, donc je vais me documenter et, comme tu dis, mettre un doigt dedans, machin, tirer un fil, et puis en fait, après, apprendre qu'on peut faire des cuissons en direct.
Et puis, nous, bon, on a des champions qui sont des super champions, mais qui maîtrisent une technique. Mais si on commence à s'intéresser aux autres cultures, bon, y a des trucs géniaux. Alors, c'est vrai qu'on pense évidemment aux États-Unis, on pense à l'Argentine, où ils sont quand même capables de faire cuire des bœufs, des vaches entières avec une cuisson parfaite. À l'Asie aussi, les pays russophones aussi ont quand même une super tradition de viande grillée. Donc nous, on explore une toute petite partie en fait.
Merci à Jean-François Dupont, qu'on retrouve au Sainte-Marie-de-la-Mer en juin pour le championnat de France de barbecue. Et maintenant, parlons de l'autre barbecue, celui qui sent bon les ribs, le poivre et qui colle aux doigts. Traversons l'Atlantique avec Thomas Abramovitch, fondateur de The Beast.
Deux méthodes de cuisson qui sont très différentes. Barbecue français, cuisson directe, c'est-à-dire qu'on met des braises, on met de la viande au-dessus des braises, et ça cuit directement avec, avec la chaleur des braises. Barbecue américain, cuisson fumée, une méthode indirecte, c'est-à-dire que le bois brûle d'un côté, ça fait de la fumée, et les viandes sont dans un autre foyer. Et seule la fumée est en contact avec la viande, pas de source de chaleur directe, d'où méthode indirecte. Cuisson lente pour les États-Unis, cuisson rapide pour le barbecue français.
Tu es le créateur de The Beast, qui est une, vous avez deux restaurants à Paris de barbecue.
Ouais.
Ça fait combien de temps que ça a ouvert ?
Ça fait 4 ans.
Et tu faisais quoi avant d'ouvrir The Beast ?
Alors avant, moi j'ai eu une vie précédente, je bossais dans les vins et spiritueux. Donc j'étais déjà autour de la gastronomie, mais plutôt côté marketing et commercial. J'ai passé 4 ans à New York, et puis c'est là-bas que j'ai découvert le barbecue texan. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait changer. J'avais besoin de faire un truc qui me ressemblait un peu plus, et j'ai décidé de monter les restos.
T'avais, c'est vraiment, quand est-ce que c'est eu le l'espèce de switch, tu t'es dit c'est la restauration que je veux faire. Est-ce que c'était déjà un peu dans ta tête avant, ou c'est un truc qui d'un coup tu t'es dit non, c'est ça qu'il faut que je fasse?
Je pense que c'est un truc latent, ouais, que t'as en toi. C'est compliqué de devenir restaurateur juste par opportunité. Faut avoir une vraie vocation, c'est un métier difficile. Moi j'ai toujours aimé recevoir chez moi, j'ai toujours aimé avoir des potes à la maison, faire à manger, même si le métier de restaurateur c'est très différent que de recevoir à la maison. Mais dès le départ, en fait, dès que j'ai mis les pieds à New York, voilà, je partais en VIE et j'étais assez jeune et j'ai découvert ça là-bas. Et je me suis dit, ça serait génial qu'un jour il y ait un mec qui fasse ça à Paris. Moi, j'ai la chance de pouvoir voyager, d'être expat, de découvrir ça. Mais mes potes qui iront jamais là-bas, ça serait cool qu'un jour quelqu'un fasse ça. Puis personne l'a fait. Donc au bout d'un moment, j'arrivais au bout du premier chemin, on va dire. Je me suis dit, voilà, il faut le faire, il faut le faire bien.
Tu te rappelles du premier barbecue, enfin, le moment où tu as eu la révélation du barbecue, c'était à New York, c'est ça?
Ouais, il y a deux moments clés. Donc, il y a un à New York, qui est à Brooklyn, que beaucoup de Français connaissent, qui est dans un hangar, et c'est une vraie expérience. C'est pas le meilleur barbecue en termes de, enfin, pour moi, hein, en termes de, j'en ai fait des meilleurs, on va dire, mais en termes d'expérience, c'est vraiment un truc qui m'a mis une grosse claque.
Ça s'appelle comment ?
Ça s'appelle Fête Sao, qui est assez connu. C'est un ancien hangar automobile, garage auto, qu'ils ont retapé en barbecue. C'est très Brooklyn. C'était déjà il y a 11 ans, donc voilà, c'était le début de Williamsburg, c'était pas encore ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais c'était intéressant de voir ça. J'ai pris une bonne claque, les grandes tablées en bois, tout le monde qui partage des grands plateaux, tout ça, c'était hyper convivial. Deuxième moment clé, première fois de ma vie où je suis parti au Texas. Donc mon coloc de New York qui était du Texas, qui m'invite à passer Thanksgiving dans sa famille. Moi, voilà, le Texas... tu connais parce qu'on te dit dans les journaux, hein. Donc c'est quoi ? C'est les ranchs, les cowboys,
George Bush, le pétrole,
les guns, le pétrole. Et puis en fait, il me dit, je vais t'emmener dans un resto, c'est typique texan, tu vas voir. Et là, il m'amène un resto qui est devenu une chaîne, qui s'appelle le Salt Lick, qui est un peu touristique, mais là, t'arrives et t'as les montagnes de viande qui fument, les gens, de la musique country dehors, des gosses qui jouent des petits jeux en bois, machin et tout. C'est vraiment hyper rural, hyper texan. Et là, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce truc de ouf?
Parce que moi, j'ai eu un peu la même révélation que toi avec le barbecue. C'est quand je suis parti pour la première fois de ma vie à Austin, où pareil, je me disais, je savais pas où je mettais les pieds. Je me suis dit, oh, Austin, bon, parce que le Texas, voilà, comme tu dis, on a l'idée d'un truc républicain, très conservateur. Vraiment un endroit dur sous le soleil. Puis il y a quand même des Austin particulièrement qui est une ville assez folle. Et une fois que j'arrive là-bas, je me dis ok, ça va être les burgers, trop bien. Et puis un jour, on va dans un barbecue un peu par hasard et je connaissais rien à ça, quoi. Pour moi, c'était le barbecue, c'était ouais faire des viandes comme tu dis, enfin à la française, quoi. Et là, je mange des ribs, je me dis mais c'est quoi ce délire, quoi. Et depuis, ouais, je suis complètement accro au truc. Toi, t'es allé à Austin?
Ah bien sûr, moi je me suis formé dans la région d'Austin, donc j'ai eu la chance de trouver un mentor après avoir démarché pas mal de mecs en allant dans plein de festivals et essayer de choper des contacts.
Parce que ça c'est quand t'es à New York et tu te dis ok, je veux faire ça, donc là maintenant tu passes à la phase proactive du truc et tu dis je vais à Austin pour trouver un mentor.
Exactement. En gros, ça se passe, c'est même plus que ça. Je suis à New York et il y a un gros festival, c'est marrant, qui a eu lieu d'ailleurs, c'est un truc annuel qui a eu lieu le week-end dernier, qui s'appelle Big Apple Barbecue Fest. Donc, un gros rassemblement de barbecue. Ils font venir que des restos de barbecue de tous les États-Unis. C'est sur un week-end à Madison Square Park. Et t'as genre 50 stands en bas de l'Empire State qui font à manger. Et là-bas, j'ai rencontré un auteur de barbecue dont j'avais le bouquin, un peu par hasard. Et je lui ai dit, voilà, je suis français, je suis allé le voir un peu
au bluff,
au culot, quoi. Ouais. Et je lui ai fait, voilà, je suis français, j'aimerais bien trouver un mentor pour m'apprendre le barbecue texan, parce que j'aimerais bien faire ça à Paris, mais le faire comme là-bas. Je veux pas juste essayer d'improviser un truc. Voilà, je veux vraiment faire un truc hyper quali. Et donc il m'a présenté un des restaurateurs qui s'appelle Wayne Muller, qui est devenu un ami proche, un père spirituel un peu dans le milieu, tu vois, et qui a eu le courage de m'accueillir chez lui et de me former.
Là, c'est comme dans Karate Kid, tu te retrouves vraiment. Et c'est dure combien de temps?
C'est le maître. Plusieurs mois. Je suis parti en fait au Texas avec une caisse. Je savais pas combien de temps j'allais rester. J'avais le bouquin de l'auteur sur le siège passager. Et puis tous les jours, je me faisais une ville différente, pour aller de barbecue en barbecue, pour aller poser des questions. Et puis quand il y avait un feeling qui passait, bah des fois je passais 2-3 jours. Alors de temps en temps, voilà, moi je partais de zéro, hein, donc j'étais prêt à passer la serpillière devant le fumoir juste pour poser 3 questions au mec, quoi.
Et ça dure 2-3 mois, c'est ça que tu dis?
Non, c'est plusieurs mois. Plusieurs mois.
Où tu fais que ça, c'est-à-dire que vraiment,
tu fais que ça.
Road trip dans le Texas.
Exactement. J'ai quitté mon taf, je suis parti, j'étais tout seul et là je me dis voilà, c'est le début de la nouvelle aventure et ça prendra le temps qu'il faudra, quoi. Et donc un moment dans mon voyage, ce mec me dit bah tu peux venir chez moi, il y a pas de problème, moi je te forme. Et puis ça a été le début de l'aventure, quoi.
Et comment on se fait former au barbecue? C'est quoi? C'est apprendre à bien chauffer des braises, à choisir la bonne viande. Enfin, c'est quoi les étapes un peu importantes, un peu clés?
Bah t'as plein de critères en fait qui impactent le résultat final. Donc la cuisson, le mode de cuisson, le choix du fumoir, le choix du bois. La température, l'assaisonnement des viandes, le choix des viandes, les accompagnements, tout ça joue. Et en fait, c'est un mix de voilà, c'est vraiment tu choisis toi tes critères où tu veux les placer. Moi, je suis parti sur du truc quali, donc on est positionné sur un critère premium en termes de qualité et accessible en termes de prix. Mais après, tu peux tout faire, quoi. Tu peux faire des trucs en boîte, comme tu peux faire de l'étoilé, quoi.
Est-ce qu'il te donne aussi comme un vrai maître un secret de fabrication? Je sais pas, tiens, c'est mon secret de la sauce barbecue que j'ai donné qu'à 3 personnes.
Donc. Ouais, c'est marrant. La sauce barbecue, c'est un peu le mythe là-bas. Alors déjà, au Texas, faut savoir que là où je me suis formé, c'est-à-dire dans la région d'Austin, il y a très peu de sauce. Et donc, il y a aucune sauce sur la viande. Toujours servi à côté. T'as certains restos, hein, les plus hardcore, qui refusent de faire de la sauce. Donc, tu manges avec tes doigts. Et il n'y a pas de sauce.
Donc, c'est vraiment des viandes qui sont juste assaisonnées sèches, quoi. Donc, avec des épices.
Poivre.
Sel, poivre. Ah, sel, poivre, c'est tout.
Sel, poivre, c'est tout.
Et
sur
smoker.
Le bœuf.
Okay.
Et ensuite, smoker, 15h, 20h.
Ok. Et donc, là, toi, t'as quand même donné la sauce barbecue.
Si tu veux, en fait, pour moi, c'est la forme la plus pure du barbecue. Parce que tu cherches pas à couvrir quoi que ce soit avec du sucre, avec du jus. Il y en a qui arrosent de jus de pomme, de vinaigre. T'as plein de manières. Et c'est très bon. Mais je trouvais que. Vraiment, ça prenait tout son sens le plus noble quand tu servais le bœuf avec sel, poivre et rien d'autre, et que tu sens tout sauf du sel et du poivre. T'as l'impression qu'il y a 15 épices dans ce que tu manges. Et en fait, c'est juste la magie de ce barbecue qui te transforme la matière première. Et voilà, c'est l'approche que moi j'ai eue en partie. C'est pour ça que j'ai choisi Austin. T'as d'autres régions au Texas qui utilisent du sucre, des sauces, voilà, plein de styles régionaux différents. Moi, j'ai choisi celui-là.
Et du coup, comment tu dis, est-ce que il y a un truc moi qui m'intrigue moi et que je pense savoir comment ça marche, mais je me dis, je peux poser la question peut-être que j'apprendrai plus. C'est le smoker justement. Comment donc c'est des braises d'un côté, la viande de l'autre, et pour le coup vraiment de l'autre. Hein. Pour vous donner une idée pour les auditeurs, ça ressemble un peu à une petite locomotive en fait. Et en fait, c'est la fumée chaude qui traverse le smoker et qui va chauffer comme ça la viande, c'est ça?
C'est exactement ça. Donc après t'as des systèmes où ta viande est posée sur des grilles et puis tu peux la tourner régulièrement en fonction des points chauds à l'intérieur du foyer. T'as des points qui sont plus chauds que d'autres. Donc, je sais pas, moi, il y en a qui vont commencer très doucement et puis la finir un peu plus forte. D'autres qui font l'inverse. Il y a plein, chacun fait ses propres méthodes. Nous, au resto, l'original, donc à République, c'est exactement cette méthode de cuisson. Sauf qu'on a en plus une rôtisserie à l'intérieur. Donc, les viandes tournent comme dans une rôtisserie de poulet, de volaille, mais elle baigne dans la fumée de façon uniforme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul point chaud, et c'est comme ça qu'on travaille nos viandes et qu'on arrive à avoir cette constance.
Et du coup, aussi le choix du charbon, j'imagine qu'il est le choix du bois, pardon, il est important. Toi, tu te fournis où ?
Alors, c'est marrant ton lapsus. En France, voilà, on fait du barbecue au charbon. Là où j'ai appris au Texas, on ne fait pas de charbon. C'est vraiment traditionnel. Et nous, on a choisi cette approche-là. Donc, c'est que de la bûche. Chez nous, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de charbon. C'est vraiment que de la bûche. Et nous, on utilise de la bûche de chêne. Le chêne, parce que d'abord, c'est avec ça que je me suis formé à Austin. Et puis, c'est un bois qui est assez dense, donc qui brûle lentement, qui permet des cuissons lentes. Si tu prends un bois un peu plus sec, il va brûler trop vite. Si tu prends un bois trop jeune, ça va donner une fumée âcre. Donc, il faut aussi le bon niveau
d'âge, de vieillissement du bois.
De vieillissement pour avoir le niveau d'hydrométrie à l'intérieur du bois. C'est-à-dire que l'eau s'évapore au fur et à mesure du vieillissement. Et voilà, tu recherches un niveau optimal pour tes cuissons.
Et les viandes, c'est vrai que le barbecue américain utilise des viandes plutôt des parties pauvres, des viandes. C'est pour ça qu'elles cuisent longtemps. Toi, c'était aussi un truc qui t'intéressait, c'est de faire découvrir aux gens des bouts qu'on ne connaît pas forcément.
Alors, c'est vrai que c'est historiquement, donc au Texas notamment, je parle beaucoup du Texas, hein, je suis désolé, mais c'est vraiment moi là-dessus que je me suis focalisé. Il y a plein d'autres États qui font d'autres styles de barbecue, à Memphis, dans les Carolines, en Virginie. Mais voilà, moi j'ai choisi le Texas. À la base, c'est des immigrés allemands et d'Europe de l'Est qui ont débarqué au Texas au 19e siècle. Et qui avaient les méthodes de cuisson au fumoir. Donc les Allemands les faisaient des saucisses, beaucoup de saucisses. Donc aujourd'hui, t'as une des spécialités du Texas, c'est les saucisses de bœuf qui sont fumées, parce que c'est les Allemands qui ont importé ça. Le brisket, qui est la pièce phare du barbecue texan, qui est de la poitrine de bœuf, c'est le même morceau que le pastrami qu'on retrouve en Europe de l'Est. Donc en fait, historiquement, t'as ce lien entre les Européens qui ont émigré aux États-Unis à cette époque-là, qui n'avaient pas une thune, qui étaient souvent des ouvriers qui travaillaient dans des exploitations, soit de pétrole, soit dans des fermes, des ranchs. Et puis, en fait, ils pouvaient récupérer que les bas morceaux. Donc, ce qu'on appelle les bas morceaux, c'est les morceaux qui sont un peu fermes, que tu peux attendrir uniquement en cuisson lente, que tu utilises en France dans le pot-au-feu notamment. Donc, ça peut être du paleron, ça peut être du plat de côte, de la macreuse, et le gros bout de poitrine qui équivaut un petit peu à une découpe de brisket. Et le seul moyen de cuire et d'attendrir ces morceaux-là, c'est en cuisson lente. Donc, en France, on le fait en mijoté avec des bouillons. Aux États-Unis, ils le font en barbecue texan.
Et tes viandes, tu les choisis aux États-Unis, c'est ça ? Elles viennent d'ailleurs qu'en Europe. C'est rare, je trouve, dans les restaurants. Pourquoi tu as fait ce choix de pas te fournir en France, justement ?
Alors, on fait la différence entre nos différents types de viandes. Tous nos porcs et nos volailles sont fermiers français, label rouge, parce qu'on a une qualité de dingue en France et qu'on a trouvé les morceaux qui nous conviennent. Pour le bœuf, nous, on a deux contraintes. La première, c'est qu'on fait des découpes qui n'existent pas en France. Les animaux, les carcasses aux États-Unis sont découpées différemment d'en France. Donc, il faut trouver déjà un abattoir qui accepterait de nous sortir un brisket qui est un peu proche du gros bout de poitrine en France, mais pas tout à fait. Donc, ça voudrait dire couper les viandes de façon customisée juste pour nous. Et eux auraient de la perte sur d'autres morceaux. Ils auraient des morceaux qu'ils n'arriveraient pas à vendre. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour le bœuf, toujours, c'est qu'on a besoin de viande très, très persillée. Persillée, c'est-à-dire que le gras a pénétré le muscle. Quand tu coupes une tranche crue, t'as limite autant de blanc que de rouge. Quand tu regardes un wagyu ou un bœuf de Kobe, c'est quasiment tout blanc. Ça s'appelle le persillé. Et en France, on a du mal à trouver des morceaux de poitrine très persillés. On en trouve un peu en entrecôte. On en trouve un peu en côte de bœuf, mais les viandes sont parfaites pour de la grillade. C'est logique, hein. On est en France, on fait de la grillade parce que aussi les viandes sont adaptées. Mais pour des cuissons lentes au fumoir, il faut des viandes qui sont plus grasses. Donc aux États-Unis, nous on travaille que du premium. Donc on prend du Black Angus qui vient d'une ferme au Kansas dans laquelle je suis allé pour visiter l'exploitation, contrôler, regarder ce qu'on nous vend sur le site internet et tout ça pour être sûr de la qualité. Et effectivement, j'ai trouvé des bêtes qui étaient élevées en plein air, sans médicaments, sans hormones, qui mangent de l'herbe et qui sont finies 3 mois au grain, ce qui permet justement au gras de rentrer dans le muscle. C'est des bêtes qui sont pas du tout stressées. En France, souvent elles pâturent, donc elles marchent beaucoup. Ça donne des viandes maigres avec des muscles puissants. Aux États-Unis, le gras rentre plus parce qu'elles sont plus tranquilles, entre guillemets. Et donc, ça donne ces viandes persillées que nous, on recherche. Maintenant, demain, s'il y a quelqu'un qui vient me voir, un producteur, et qui me dit « j'ai un élevage en France et qui peut correspondre à ce que tu recherches », je le prends tout de suite.
C'est quoi les top 3 des barbecues que tu as fait aux États-Unis? Les 3 qui t'ont vraiment marqué et pourquoi?
Je vais te dire le Salt Lake, même si en termes de qualité, c'est pas le meilleur que j'ai fait, mais c'est celui avec lequel je suis attaché parce que c'est là où j'ai vraiment eu le clic dans la tête avec cette révélation. Quand tu rentres, il y a ce mélange d'épices, de fumée, d'odeur de viande, tu vois cette convivialité partout. Enfin, c'est vraiment, il s'est passé un truc quand je suis allé dans ce resto-là, donc ça m'a marqué. Il y a le resto dans lequel je me suis formé, qui est à peu près à 20 minutes d'Austin, qui s'appelle Louis Muller Barbecue. Donc Louis Muller était le grand-père de Wayne, qui est mon mentor. Donc 3e génération, ils font ça de père en fils. Le père, qui s'appelait Bobby, qui est maintenant décédé, a gagné un James Baird Award, qui est l'équivalent des Oscars de la cuisine. Donc ça a été un des premiers à vraiment populariser le barbecue et à lui faire prendre son essor. Et puis c'est un lieu incroyable, t'es au milieu de nulle part, t'es dans un film, t'es dans un décor de film, au bord d'une autoroute et dans un hangar. Et en gros, ils commencent à servir à 11h du matin, donc dès qu'ils sont prêts à servir, ils sortent un drapeau américain dehors, de façon à ce que les truck drivers, donc les chauffeurs de poids lourds, ils puissent s'arrêter en voyant le drapeau, ils savent que tu sers. Dès qu'ils sont sold out, il n'y a pas d'horaire de fin. Aux États-Unis, ils ouvrent à 11h et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et donc, quand ils sont sold out, ils rentrent le drapeau. Donc, les mecs savent que ça sert à rien de s'arrêter, ils tracent.
Putain, c'est incroyable.
Et c'est un endroit qui est magique, qui existe depuis plus de 60 ans. Les murs, ça pue l'histoire dans cet endroit et c'est magique. Il faut y aller une fois dans sa vie. Après, t'as des mecs comme Aaron Franklin qui sont devenus des stars médiatiques aux États-Unis.
C'est Franklin's Barbecue, celui qui Franklin's est vraiment barbecue. Downtown Austin. Exactement. Il y a 4 ou 5 heures de queue.
Mmh. Ouais, les gens commencent à faire la queue à 6 heures du mat.
Il y avait un petit qui te proposait de louer sa place dans la queue. En gros, il faisait la queue pour toi. T'as entendu cette histoire?
J'ai entendu cette histoire.
Il faisait la queue pour toi pour, je sais pas, 10, 20 balles pour qu'en fait, pour se payer sa voiture quand il aurait son permis.
C'est un délire. En fait, on mesure pas en France, là. La puissance de cette culture là-bas aux États-Unis, mais il faut savoir que c'est vraiment une religion. C'est-à-dire, t'as des stars, t'as des shows télé, t'as des concours, il y a des top chefs de barbecue. Enfin, c'est vraiment, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, t'as certains chefs qui émergent. Et Aaron Franklin en fait partie. Ça a été la nouvelle génération. Donc Aaron, c'est un mec qui s'est construit tout seul, qui est le plus grand geek de barbecue, qui construit ses fumoirs, qui a écrit des bouquins sur la circulation de la fumée. Enfin, vraiment, vraiment un mec qui a poussé l'art du barbecue à son extrême. Et les gens viennent du monde entier aujourd'hui pour manger chez lui. La queue commence à 6 heures du mat, il ouvre à 11 heures. Et tu peux faire 5, 6, 7 heures de queue pour bouffer du brisket chez Aaron Franklin.
Je t'ai rencontré.
Ouais, je l'ai rencontré, on a un peu échangé. Je me suis pas formé chez lui, mais voilà, il a été assez cool pour. Ça reste une famille, le barbecue, donc je sais qu'il nous a donné pas mal de petits conseils. C'est un mec hyper gentil, hyper agréable. On a cuisiné avec lui sur pas mal de festivals. On a eu la chance d'être invité à Austin par un magazine qui s'appelle Texas Monthly, qui est un peu l'équivalent du Michelin sur le barbecue. Et tous les 5 ans, ils sortent un guide des 50 best barbecue du Texas. Donc quand t'es dedans, t'es tranquille pendant 5 ans. Si tu en sors, je pense que tu perds 30% de ton chiffre d'affaires. Et chaque année, ils organisent une réunion à Austin avec 25 des restos qui font partie de cette liste. Et on a eu la chance d'être les premiers non-texans c'est même pas non américain, c'est non texan, à être invité à cuisiner avec eux. Ils sont venus à Paris, à The Beast, ils sont venus tout goûter pour valider le truc et ils nous ont demandé de cuisiner chez eux. Donc on était les invités d'honneur et c'était l'année dernière et on a cuisiné sur les fumoirs d'Aaron qui nous a prêté pour le festival.
C'était incroyable, c'était bien, c'est une expérience j'imagine complètement folle.
C'était dingue.
Il y a un truc avec le barbecue américain en fait, j'ai appris ça en regardant, je sais plus, un documentaire sur Netflix je crois, sur avec David Chang, Ugly Delicious, et c'est vrai qu'il pointe du doigt du fait que le barbecue, là, l'essor du barbecue, il y a eu, là on est dans le deuxième âge un peu du barbecue, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où c'était un peu un truc de pauvre, décrié, et ça fait peut-être 15-20 ans qu'il y a eu une espèce de retour, et maintenant une folie du barbecue, et ça toi tu t'en as parlé un peu aussi avec, les, bah, avec ton mentor, avec, il explique comment.
Ouais, alors il y a un vrai, déjà il y a eu une explosion comme tu dis, il y a une bonne dizaine d'années pour un truc qui était vraiment, faut savoir que le barbecue là-bas, enfin c'est pas un truc fashion, hein, c'est une cuisine populaire, c'est une cuisine à la base de gens pauvres. T'en trouves au bord des routes pour les chauffeurs, les routiers qui ont pas les moyens d'aller au restaurant et donc ils vont se prendre un rack de ribs sur le chemin. Voilà, historiquement, c'est vraiment une cuisine populaire. Comme beaucoup de cuisines populaires, t'as des gens qui vont rehausser le niveau en sourcing, en marketing, en technique, en nouvelles méthodes, etc. Et puis, ça fait que ça évolue. Ça a explosé. Aaron Franklin fait partie des gens qui ont fait décoller un peu ce... qui font partie de la hype aujourd'hui autour du barbecue. Nous, on voit même une nouvelle évolution aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, tu peux acquérir les techniques de cuisson pour faire du très bon barbecue, chose qu'on a essayé de faire. Et puis, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on s'est dit comment on peut encore faire évoluer le truc derrière. Et l'idée, c'est avec notre nouveau resto là, qu'on a ouvert au sous-sol de Belleville, qui s'appelle Son of a Beast, on s'est dit comment on peut montrer aux gens qu'avec le fumoir, on peut faire autre chose que juste des ribs et du brisket. Et l'idée, c'était de dire, bah, on va se réapproprier une cuisine du monde en la travaillant avec le fumoir. Parce que le fumoir, en fait, c'est quoi? C'est un outil qui permet de développer la créativité. Et comme on a un super chef aussi en cuisine, bah, on s'appuie sur ses techniques et son expérience pour essayer de créer des choses qui n'existaient pas. Donc là, aujourd'hui, on a un menu fusion chinois traditionnel et dans chaque plat, t'as un menu en 6 plats. Chaque plat a un ingrédient qui est travaillé au fumoir. Et ça montre aux gens qu'avec ces techniques de cuisson, tu peux faire plein d'autres choses que du barbecue.
Merci à Thomas Abramovitch, que vous pouvez retrouver au restaurant The Beast, 2 adresses à Paris, et il est aussi sur des festivals comme le Hellfest ou Lollapalooza cette année. Et puis merci à Jean-François Dupont, qu'on retrouve au Sainte-Marie-de-la-Mer pour le championnat de France de barbecue. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes animée par Guillaume Malissen, réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, monté et mixé par Thibaut Delage au studio L'Arrière Boutique, production et coordination Laura Cuissard. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et pourquoi pas nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. À la semaine prochaine !